Les apprentis du bien nourri. Bonjour, vous êtes comme tous les mercredis, bien sûr, au moulin du bien nourri à Châtellerault, chez Minou, chez Hervé. Alors là, il fait un temps magnifique, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Malgré le froid, c'est les beaux jours qui reviennent. Et du coup, on a décidé, nous aussi, pendant que les oiseaux chantent à tue-tête, de revenir à notre chaufferie. Aujourd'hui, on est tous autour d'une table, non pas pour manger, pour une fois, mais pour nous écouter et nous critiquer surtout. C'est justement en général ce qu'on essaye de ne pas faire quand on est entre amis qui s'aiment bien. On essaye de ne pas, se critiquer, en tout cas pas ouvertement. Mais là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Cependant, bien sûr, quand on travaille, on est toujours en train de se critiquer. En fait, quand on apprend un instrument, c'est primordial de travailler ces deux choses-là. Jouer en se critiquant et jouer sans se juger. C'est deux choses importantes. Au moment où on joue devant un public, bien sûr, on a besoin avant tout de pouvoir laisser les choses se faire, se laisser être bon, laisser sortir le meilleur de soi-même. Pour ça, il ne s'agit surtout pas de juger, de critiquer, de comparer, de mesurer, de reproduire une manière de faire, un état. Non, non, il s'agit simplement de jouer. Un point, c'est tout. Il faut laisser faire, il faut lâcher prise. Ne pas chercher. Être, c'est tout. Par contre, bien sûr, quand on travaille, quand on met au point une interprétation, qu'on règle un problème de justesse ou qu'on cherche une couleur sonore particulière, bien sûr, l'esprit critique doit être bien aiguisé. En réalité, je ne connais pas de critique plus féroce que les artistes envers eux-mêmes. On dit la critique est aisée, l'art est difficile. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les apprentis qui, pendant ces 40 minutes, risquent d'être en effet dans un état critique. Plus ils sont sévères, plus ils se marrent, ça se voit là sur leur visage. Et aujourd'hui, ils ont décidé de jeter un pavé dans la mer. Vous êtes sur France Musique et c'est jusqu'à 13h40, les apprentis du bien nourri, un pavé dans la mer. Alors, à cette table, j'ai autour de moi Lucie, Gabi, Julien, Juliette, William, un autre Julien, un violoniste cette fois, Edouard, Laurence, et on a un invité un peu extérieur, pas tout à fait extérieur puisqu'il est toujours là, mais d'habitude on n'en entend pas parler, c'est Jean-Pierre, notre réalisateur. Alors, on commence par William et Julien, qui jouent avec Karine, bien sûr, Karine Cello, au piano, notre orchestre philharmonique, un extrait de La Muse et le poète de Saint-Saëns. Alors, on va d'abord demander aux intéressés ce qu'ils en pensent. Vous venez de vous écouter.
C'était un premier aperçu.
William.
Ce passage représente un premier contact entre les deux solistes qui jouent ensemble pour la première fois. Alors, ce que j'en pense, c'est qu'on cherchait à peu près différentes directions. On en a essayé une première qui donne une impression de flottement un petit peu. Ouais. Première impression, c'est pas trop savoir où on va encore. On n'a pas visé le point culminant de la section.
Julien, enfin, qu'est-ce que tu penses?
C'est pas qu'il n'y a pas de direction, c'est que on se laisse aller sans vraiment avoir une idée précise.
Les autres, qu'est-ce que vous en avez pensé, Juliette? C'est la première fois que tu entends cette œuvre, parce que c'est pas très connu, ça, la musée de poète.
J'ai du mal encore
à aiguiser ton esprit critique comme voilà. Ça sur une.
Parce que je la connais pas, donc.
Oui, mais c'est un exercice intéressant. Bon, on écoute une deuxième version alors, avec les mêmes interprètes, bien sûr. Alors, cette deuxième version, qu'est-ce que ça vous dit par rapport à la première? Allez, les petits critiques, là. Lucie. Tout d'un coup, la critique est aisée. C'est pas si aisé que ça, on dirait. Laurence, tu veux dire quelque chose?
Non.
Non plus. Bah, ça va être beau, l'émission, là. On en est au premier extrait.
Ouais. Mm-hmm. Moi, je sens le son plus William. Contenu. Je sens que dans cette deuxième version qu'on a entendue, le son est plus habité, plus dense, plus nourri, la première. Et on a au moins une direction importante, c'est sur cet arpège de Do majeur piano qui représente la harpe dans l'orchestre, où le compositeur a indiqué « teneramente », donc avec tendresse. Et je trouve qu'on incarne mieux ce sentiment dans cette deuxième prise que dans la première.
Vous êtes d'accord ou pas les autres? Vous avez remarqué ce passage, la teneramente? Oui, Juliette?
Moi, c'est vrai que je préfère aussi la deuxième. Je trouvais que c'était, y avait plus de direction. Mm-hmm.
On en écoute une troisième, peut-être que ça va départager.
Moi, j'ai trouvé le son mieux, en fait. Oui. C'était plus équilibré, je trouvais. Oui. Là, j'ai trouvé que ça sonnait mieux, en fait.
D'accord. Très bien. Jean-Pierre?
Oui, ouais. L'agogie.
Ah oui,
hein,
ah oui.
C'est bien, parce que vraiment, ça bouge et ça donne tout le mouvement. Et c'est très bien fait.
Laurence?
Oui, puis la justesse est bonne la troisième fois.
Alors, aussi.
Tout. Que la première et la deuxième fois,
tout fonctionne bien.
Julien, qu'est-ce que tu en penses?
Waouh, qu'est-ce que j'en pense?
Julien, c'est le violoniste.
Il me semblera que la troisième prise est mieux parce qu'il y a plus de mouvement, donc c'est un peu plus exaltant quoi, à écouter que la première, évidemment.
Oui, on a eu aussi entre les prises les conseils de Jérôme, on doit dire.
Ah oui, mais c'est parce, pas que le, parce que le but du jeu, c'était de changer de version, évidemment, de faire une version différente. Alors, on passe à un autre extrait maintenant. C'est Julien, cette fois l'autre Julien, le violoncelliste, qui joue avec Karine la réexposition du premier mouvement de la deuxième, je vais y arriver, sonate de Brahms pour violoncelle et piano. D'abord, on va commencer par, évidemment, Julien, puisque c'est lui qui jouait avec Karine. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens d'entendre ?
C'est assez proche, quand même, de ce que j'entends quand je joue, avec une dimension de résonance en moins, quand même. Je suis un peu surpris par la sécheresse des...
Tu voyais ça plus...
Ah, je l'entendais.
Tu croyais que tu jouais plus long, là ?
Ah, il me semblait, oui. Mmh.
D'accord.
Il me semblait.
Et sinon, d'une manière générale, sur ce qui est transmis, les autres, qu'est-ce que vous en pensez là, de ce que vous avez entendu, Julien, peut-être l'autre Julien,
ouais, le violoncelle. Au niveau du, j'ai l'impression que le piano était assez loin. Enfin, au niveau de la prise de son, quoi. On entend beaucoup le violoncelle. Mais bon, ça, c'est juste.
Oui, et puis
c'est
là,
pas forcément trop intéressant.
C'est un petit piano là.
Ouais.
On est en situation de cours au Moulin du Bien-Nourri. Là, on n'est pas en concert ni en studio d'enregistrement. Oui, oui. Donc, en effet, on est sur un piano droit. Et d'ailleurs, je tiens à tirer mon chapeau à Karine, une fois de plus, qui joue tout le répertoire sur un piano qui n'est pas un piano de concert et qui le fait malgré tout sonner comme un orchestre symphonique. C'est formidable de faire ça comme ça.
Oui, si on parle de la gogée, encore une fois, je pense que là, c'était un peu régulier, où il n'y avait pas...
Alors, moi aussi, voilà. C'est ce que je ressens aussi, Jean-Pierre, c'est un rythme un peu trop installé.
Oui,
en fait. Quelque chose d'un petit peu... d'un peu assis, quoi.
C'est-à-dire que je vois... Parce que là, on entend un très court extrait de l'œuvre, et peut-être vous voudriez plus d'agitation, parce qu'on est sur un point de vue analytique, mais si on entendait l'œuvre intégralement, c'est-à-dire pas seulement le premier mouvement, mais toute l'œuvre, et si j'agitais autant que vous le souhaitiez à chaque endroit, ce serait insupportable, je pense.
Mais c'est pas la question d'agiter, hein. C'est pas ça, je pense que c'est pas ça qu'il disait Jean-Pierre, pas agiter, mais quelque chose qui soit plus en mouvement. Et là, il y a quelque chose de statique, et je suis assez d'accord. Mais toi, ça te... T'as pas eu ce sentiment-là en écoutant. Allez, une deuxième version.
Je sens pas une grande différence entre les deux versions.
Mm-hmm. C'était la même.
Mais oui, c'était la même. Oui, il est pas tombé dans le panneau.
Non, j'avoue que j'ai pas entendu que c'était la même. Ça me paraissait. Alors, bizarrement, pour une deuxième écoute, ça me paraît. J'aurais voulu le thème plus tendu. Enfin, tendu, ça veut pas dire grand chose, mais plus. Un peu plus d'intensité, quoi.
Moi, j'ai plutôt préféré la deuxième. Et alors, Julien violoncelliste, toi, à quoi t'as reconnu que c'était la même, en fait ? À des détails ou à une chose générale ?
Je me dis que c'est... Au début, je me dis, tiens, c'est drôle, c'est exactement les mêmes intentions, vraiment. C'est qu'il y a une permanence de quelque chose. Et puis finalement, quand je vois que, par exemple, sur la réexposition, exactement sur le premier temps, il y a le même décalage avec le piano, je dis,
C'est la même.
C'est la même.
Lucie.
J'ai préféré la deuxième parce que... Ouais,
j'aime bien. Oui.
Parce que peut-être que j'étais plus disponible et que
avec la première, j'étais déjà un peu plus dans l'écoute et du coup...
Alors c'est exactement pour ça que j'avais choisi de faire écouter à un moment donné deux fois la même version, parce que j'étais tout à fait convaincu que ce serait intéressant de critiquer plutôt notre manière d'écouter que notre manière de jouer finalement. On va écouter Juliette dans le deuxième menuet de la deuxième suite de Bach. Alors Juliette, qu'est-ce que t'en penses de ce que tu entends de toi là? C'est pas facile de s'écouter.
Vu que je déchiffre depuis, j'ai déchiffré il y a pas longtemps.
Ouais.
Donc c'est la première fois.
Il y a quelques jours là.
Ouais. C'est tout frais.
Ouais.
J'ai pas encore vraiment d'idée de ce que je veux faire encore très précisément.
Ça s'entend ça? Les autres vous entendez qu'elle a pas d'idée de ce qu'elle veut faire ou pas?
Oui, Lucie. Moi je trouvais ça un peu haché, ouais. Après, je trouvais qu'il y a des bons moments, il y avait une belle résonance et des bons appuis, mais un peu haché.
Il y avait pas, je trouvais qu'il y avait pas de phrase en fait. C'était comme je disais, aussi haché. Et puis un truc qui m'a surpris, c'est le tri au début. J'entendais pas un tri en fait. J'avais l'impression de faire un tri, mais en fait ça sonne pas comme.
Ah tiens. Peut-être que ça va être la même chose dans la deuxième version. On va écouter la deuxième version. Alors cette deuxième version, est-ce que le tri, ça t'a fait le même effet?
Non, moins.
Là, il est bien, là, avec une belle appétitude.
Ouais, là, c'était... Mais c'est vrai que la première fois, j'entendais ça le fa, quoi. J'entendais pas le battement.
Oui.
J'avais pas l'impression de...
Mm-hmm. Il y a quelque chose qui me dérange, quand même, hein, dans ce que j'entends depuis tout à l'heure, là, dans ces deux versions. Il y a pas quelque chose qui, musicalement, vous dérange? Édouard?
Bah non, je vois pas. Moi, je trouve que c'est très bien. Enfin...
Tu l'aurais joué comme ça?
Ouais, enfin, j'aurais...
Oui, Lucie, tu veux dire quelque chose?
Peut-être un peu plus vite.
C'est très subjectif, je sais pas. Oui. Un menuet, alors en plus, il y a la question du tempo dans les menuets, c'est toujours un grand sujet. On dit que au fil de la vie de Louis XIV, le menuet est devenu de plus en plus lent parce qu'il le dansait et que comme il devenait vieux et que les musiciens ne voulaient pas lui montrer qu'il devenait vieux, c'est eux qui jouaient moins vite pour qu'il puisse continuer à danser. Ouais.
C'est pas forcément plus vite, mais plus de mouvements. C'est vachement statique, en fait.
Mm-hmm. Mais il y a quelque chose d'autre qui me gêne musicalement.
On sent pas que c'est une danse, je trouve.
Ouais.
Et puis, les basses sont trop séparées du haut, en fait. Enfin, il n'y a pas de continuité dans les basses.
Là, c'est difficile de faire autrement, hein, parce que les basses, elles sont à deux cordes de différence, trois cordes de différence de l'aigu, en l'occurrence. On passe de la première à la quatrième corde. Donc, c'est pas possible de pas les séparer. C'est pas possible de ne pas les séparer. J'ai bon, hein ? C'est pas possible de ne pas les séparer. Oui. Moins, plus, moins, égale, plus, moins, moins, plus. Enfin, bon. Alors, Willy, est-ce que tu...
Moi, je dirais l'inverse. C'est-à-dire que ce qui m'a plu dans cette version, c'est qu'on distinguait bien la voix du haut et la voix du bas. Savoir que, comme il s'agit d'un instrument monophonique, la musique est polyphonique, on entendait bien la ligne de la basse et la ligne du haut. J'aimais bien ce relief-là.
Ah ouais. Alors moi, je suis assez d'accord avec toi. En même temps, j'aime bien le fait que là, on ait deux idées complètement, deux critiques antinomiques, ce qui prouve bien que la critique, évidemment, est totalement subjective et que finalement, c'est difficile de dire... C'est même impossible, en réalité, de dire qu'un tel ou un tel a raison. C'est après chacun avec ses goûts, sa culture, sa manière de voir les choses, bien sûr. Une chose qui me choque, mais alors à fond, c'est que les deux fois, il y a une reprise. Et les deux fois, tu fais exactement pareil et pas d'ornement différent, pas de direction différente, je sais pas si on a un troisième extrait, là on écoute. Allez, troisième extrait. On va voir si tu changes entre les deux fois. qu'elle change, Gabi.
Ça me choque pas, mais je le remarque. Comme maintenant que tu me l'as dit.
Voilà. Et si je disais un texte et que je dise deux fois la même phrase avec la même intonation, est-ce que tu penses pas que ça te choquerait ? Non. Tu crois pas ?
Bah, si c'est la même phrase. Enfin, ça, c'est, je le remarquerais, bien sûr, mais je sais pas si ça me choque.
Juliette, tu veux dire quelque chose ?
C'est pas trop à propos de ça, mais c'est que je trouve ça vraiment... En fait, je trouve que c'est vraiment lourd, quoi. Là, c'était... Je trouve ça un peu endormant, quoi. Je...
C'est un peu lent, en fait.
C'est pas, c'est...
Qu'est-ce qui avait dit que c'était un peu lent ? C'était Lucie ? Ouais.
C'est pas dansant, quoi. C'est et vraiment... Bah... C'est un... vraiment...
Alors voilà, moi je l'ai rembarré tout de suite, la pauvre Lucie, en lui disant que ça, c'est une question subjective, le tempo. En même temps, je suis assez d'accord avec ce que vous dites toutes les deux, finalement. C'est que, bon, c'est un peu... Ça s'endort
c'est...
un petit
ouais,
peu.
Ouais, c'est...
Ça manque de quelque chose. Oui, Jean-Pierre, tu...
Oui, globalement, ça manque oui. de dessin.
On passe à Lucie qui nous joue le premier mouvement du concerto de Lalo, un extrait du premier thème. Donc avec Karine qui nous joue le premier thème du concerto de Lalo pour violoncelle l'orchestre. Qu'est-ce que t'en penses, Lucie ?
Je sais pas si c'est moi parce que je l'ai joué comme ça ou pas, ou la sensation de l'avoir joué comme ça, mais je trouvais que c'était un peu stressant comme...
Stressant ?
Enfin, je sais pas, il y a quelque chose...
Les autres, vous avez trouvé ça stressant ?
Non, Julien. Moi, je trouvais ça bien tendu comme j'aime bien.
Ouais. Donc...
Non, mais j'ai bien aimé. Hein.
Moi aussi. Et alors, Edouard, peut-être Laurence
Moi, j'aimerais bien écouter la deuxième, en fait, avant
de... Tout de suite, d'accord, avant de te prononcer. Ouais, c'est pas bête de les écouter de manière rapprochée, comme ça, on fait tout de suite une différence. Deuxième extrait.
Moi, j'avais l'impression d'être plus sûre la deuxième fois, par exemple, que la deuxième, que la première.
Oui. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, il y a quand même quelque chose d'un peu mou, moi, je trouve, dans les deux, versions. Là, il y a un vibrato un peu qui correspond pas vraiment à l'expression que nécessite ce concerto. Qu'est-ce que tu veux dire sur ces deux versions, Juliette ?
Moi, j'ai trouvé. C'est vrai que la deuxième était plus sûre. Rythmiquement parlant, j'ai trouvé ça plus convaincant, en fait. Dans la première version, j'avais été un peu gênée. Des fois, je trouvais que ça tombait un peu trop tôt ou un peu trop tard. C'était pas comme...
C'est vrai que là, c'était...
Je le ressentais un peu...
C'était plus bien. Juste rythmiquement, là, oui. C'est vrai.
Il y avait plus, ouais, cette métrique exacte, en fait. Mm-hmm. Donc, pour moi, ça donnait plus d'assurance.
Ouais,
je me sentais mieux, en fait.
D'accord. Alors, il va falloir trancher quand même sur, entre ces trois versions, parce qu'il y a une troisième version qui arrive là. Parce que quand même, à chaque fois, je t'ai demandé des choses différentes. Hein, sur la six napolitaine, par exemple, sur le vibrato, ou sur. Et j'aimerais bien que les autres, vous essayiez vraiment de sentir alors cette finesse qui se rajoute petit à petit entre les trois versions. Alors, Edouard, qu'est-ce que t'en penses ? Je t'ai vu frémir.
Ah bon ?
Frémir de joie.
C'est cela. Moi, j'ai préféré la troisième. Elle était plus convaincante.
Laurence ?
Moi, je préfère vraiment la troisième aussi. Parce que c'est détendu.
Ouais.
Enfin, on sent que c'est détendu
c'est
de corps.
C'est plus détendu. Et du coup, aussi...
Il y avait des accents, en fait, beaucoup, dans la première et la deuxième, qui me dérangeaient.
Mm-hmm.
Sur les fins de mesure, etc.
Ouais, là, c'est plus rond. Ouais,
alors
c'est
que là, c'est...
Ça, c'est beaucoup plus rond. En revanche, du coup, il y a peut-être des glissades entre certaines notes qui sont un peu exagérées. Juliette, tu veux dire
quelque chose ? C'est vrai que je trouve la... C'est incomparable, hein, moi, je trouve.
Ouais.
Écoute, tout de suite, là, on est captivé.
Dans cette dernière version-là,
dans cette dernière version, ouais. Parce que... Et puis, c'est sûr que c'est beaucoup plus juste. Il n'y a pas aucun accident, là,
mm-hmm.
de justesse. Et puis, je trouve que c'est plus un élan. On sent que c'est fluide,
mm-hmm.
je trouve.
Mm-hmm. Jean-Pierre veut dire quelque chose.
Oui, on voit l'importance dans la manière de jouer, là, de captiver l'auditeur. Là, on est séduit par la beauté du geste et tout. Et les petits accidents, du coup, sont excusés.
Oui.
D'ailleurs, il y avait une expression d'excuser la fausse note après. Quand c'est bien joué, finalement, tous ces petits accidents ne sont pas graves.
Oui, ouais,
et là, finalement, on les entend, mais ils ne sont pas graves.
Moi, j'ai l'impression que comme il y a des directions différentes dans les trois extraits, je ne peux pas trop comparer pour dire que tel ou tel est mieux.
Oui, c'est-à-dire que, quels que soient les choix, le choix, en fait, c'est l'interprète qui le prend. Est-ce qu'on est à même de vraiment juger ses choix ? Oui, si ça dépasse la limite de l'œuvre. C'est-à-dire que si l'œuvre est desservie par les choix de l'interprète, on peut en effet critiquer de manière négative ce choix. En revanche, il y a la possibilité, évidemment... On dit qu'il y a autant d'interprétations que d'interprètes, c'est pas vrai, il y en a bien plus, puisque un interprète, à chaque fois qu'il interprète une œuvre, fait une nouvelle interprétation. Ou du moins, c'est ce qu'on espère, que justement, il ne se copie pas lui-même. Ça, c'est très important. Hein. Et Lucie, dans les choix, en effet, qu'elle a pris dans ces trois versions, il n'y en a aucun qui dessert vraiment l'œuvre. Après, on peut être plus ou moins proche de telle ou telle manière d'entendre la partition, mais est-ce que c'est vraiment critiquable ? Je suis d'accord avec toi, Gabi, la question peut vraiment être posée. Maintenant, je vais demander à Julien et Karine de faire un exercice qui est pas facile du tout, parce que tout ce qu'on vient d'entendre, c'était enregistré ce matin. En revanche, là, ils vont nous le jouer en direct, là, sur le plateau. Il s'agit du deuxième mouvement de la troisième sonate de Brahms, le début, un court extrait évidemment. Et je vais vous demander donc de jouer d'affilée deux versions totalement différentes. Thank you. bien, ça c'est le premier extrait. Vous gardez tous en tête ce que vous avez envie de dire et on écoute tout de suite une version totalement différente jouée par les mêmes interprètes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, tous, là ?
J'ai pas eu le sentiment qu'elles étaient totalement différentes.
Bon, peut-être pas totalement différentes, mais pour moi, ça reste dans le même cadre. Enfin, j'ai une idée assez précise, mais en même temps, j'ai essayé de voir si en changeant certaines nuances, on pouvait obtenir un résultat un peu plus vivant, ou moins monolithique, quoi.
Ouais, et c'est là ton erreur, je pense, d'accord, justement. Mais oui, mais bon, oui, parce que c'est pas en changeant une nuance qu'on va changer une interprétation.
Ouais, mais quand je dis nuance, je dis juste que je voulais pas mettre le climax au même endroit, quoi.
Et en fait, ce qui change une interprétation, c'est l'état intérieur. C'est pas l'extérieur. C'est pas la manière de poser l'archet sur la corde. C'est pas la manière de faire un crescendo, de le faire là ou de le faire là. Finalement, nous, ça fait pas de différence parce que la première fois, entre la première et la deuxième, on se souvient plus exactement où tu l'as mis ton crescendo. C'est pas ça qui ressort de ton jeu. Ce qui ressort, c'est que t'es dans le même état, finalement. Alors, maintenant, sur le principe même de ce qu'on vient de faire, qu'est-ce que vous en pensez, en fait? À quoi ça rime, finalement, d'écouter, de se critiquer, d'écouter différentes versions, de chercher différentes versions? Juliette.
Je trouve ça difficile de critiquer quand on ne connaît pas vraiment bien l'œuvre.
C'est ce que tu voulais dire, Gabi, peut-être?
D'avoir une critique extérieure, ça fait avancer, parce qu'on a toujours son idée en soi. Et c'est rare que les autres, enfin, c'est bien que les autres pensent la même chose que nous, ça nous confirme, mais souvent c'est pas le cas, donc
ça éclaire.
Ça éclaire et ça fait avancer.
Ça ouvre les yeux, oui, Juliette.
Quand on travaille, on fait beaucoup de critiques sur différentes choses, et là, ce qui en ressort, c'est une chose, donc ça me donne une direction de travail.
On peut être choqué par une critique, en fait, quelque chose qu'on ne voulait pas s'autoriser à penser, enfin qu'on voulait se cacher. Hein. C'est d'où le pavé dans la mer. Laurence.
Ouais, mais je trouve que l'écoute critique n'est pas très intéressante. Je ne trouve pas que ce soit une bonne écoute. Peut-être parce que je suis très critique.
Donc là, tu es en train de critiquer mon émission, là.
Voilà, c'est ça. Je n'osais pas te le dire.
Bon, et Jean-Pierre ?
Oui, je voulais dire
toi
que...
Toi qui es extérieur, et du coup, oui. T'es le seul, à ne... et moi aussi, oui, on est les deux seuls oui. À ne rien s'être pris dans la tête.
Oui, je pense, je suis pas d'accord avec Juliette pour dire qu'il faut connaître l'œuvre pour critiquer. C'est bien aussi d'avoir une écoute, une première écoute, et de voir si le musicien arrive à faire passer le message. Est-ce qu'il a réussi ça, ou est-ce qu'il a joué simplement ?
C'est ça le point crucial.
Il suffit d'avoir l'émotion.
Finalement, vous aurez remarqué, quand on reçoit une critique, ça peut être blessant parfois, mais ça, avant tout, ça fait évoluer, ça fait changer. Ça peut nous mettre en état de crise, hein, c'est-à-dire dans un état critique. La critique, bien sûr, ça fait changer. Et en physique, vous savez ce que c'est ? L'état critique, en physique, c'est le moment où la matière change. quand l'eau est sur le point de devenir de l'état liquide à l'état gazeux, c'est l'état critique. Et c'est donc une transformation, c'est donc quelque chose de nouveau qui arrive, c'est donc un état de création pratiquement, et c'est évidemment ça qu'on essaye d'atteindre, et c'est évidemment à ça que doit servir la critique. La critique, bien sûr, qu'on se fait à soi-même, étant la plus exigeante et la plus difficile, et celle dont il faut, bien sûr, se libérer pour pouvoir jouer sans se poser de questions. Voilà, bah c'est la fin de cette émission. C'est bien sûr, comme tous les mercredis, Jean-Pierre Collard qui l'a réalisé en étant à côté de nous et en participant presque comme apprenti. Nos ingé-sons préférés et prêts surtout à toutes les circonstances météorologiques, c'est Bernard Legac et Yann Fressy. C'est Edouard, notre blog manager, qui met à votre disposition toutes les photos de ce week-end sur le blog du Moulin, que vous pourrez trouver à la page de l'émission Les Apprentis du Bien Nourri sur le site de francemusique.com. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous écrire des emails à l'adresse lesapprentis@radiofrance.com. Merci, grand merci à Minouche, merci à Hervé de nous accueillir dans leur belle chaufferie, dans leur beau moulin, dans leur belle maison. Et puis, bien sûr, un grand merci aussi, plein d'admiration, à l'accompagnatrice de nos apprentis, l'incritiquable Karine Cello. Il est l'heure maintenant de retrouver Dominique Boutel. On se retrouve, bien sûr, mercredi prochain à 13h sur France Musique. D'ici là, amusez-vous bien.